avez déjà traité en partie cette question. J'y reviens pour terminer. Je la lis pour vous remettre dedans. Pourriez-vous expliciter davantage la place de la nature dans le gouvernement divin, de la nature humaine dans le gouvernement divin? La nature nous permet de découvrir l'existence de l'être premier. Il semble qu'elle nous renvoie vers Dieu. Pour cela, il faut qu'on s'appuie sur elle et qu'on en devienne libre. La nature humaine, oui, est-ce que c'est plus la personne ou la nature qui nous fait découvrir Dieu? Grave problème. Et quand on dit la nature nous permet de découvrir l'existence de l'être premier, c'est pas au sens strict la nature, parce que c'est la finalité. Alors, on revient toujours à ce problème qui, je crois, est crucial. Il met du temps à être découvert dans Aristote et dans saint Thomas. Je crois que le problème de la causalité finale dans la philosophie de la nature n'est découvert qu'à travers la nature forme. La causalité finale est découverte immédiatement à travers le point de vue de la personne. La nature ne nous fait pas découvrir Dieu immédiatement, puisque la nature nous fait découvrir le point de vue de la nature forme, opposée à la nature matière, mais la finalité n'est pas découverte directement par la nature. Quelle est la finalité de l'homme au point de vue de sa nature? C'est la procréation. Et la procréation ne fait pas découvrir directement Dieu. Vous voyez? C'est l'âme qui me fait découvrir directement Dieu. C'est l'âme capable d'atteindre la finalité, c'est-à-dire le bonheur humain. Je sais que c'est un très gros problème, ça, et qui, au fond, a été souvent très caché. Et je crois que le problème de la nature et de la personne, tel que nous essayons de le comprendre, le met en pleine lumière. Ce qui fait modifier assez l'épreuve de l'essence de Dieu. Je croirais assez facilement que la nature, parce que elle existe, m'a fait comprendre la finalité qu'est la procréation. Dans quelle mesure la procréation peut-elle me faire découvrir Dieu par le point de vue de l'âme? Je crois qu'on est obligé de passer de la nature phosis à la psyché pour prouver l'existence de Dieu. Et puis, il y a une autre preuve de l'existence de Dieu, directe, par l'amitié personnelle. Je sais qu'en disant ça, on secoue assez fortement la tradition scolastique. Et je me demande s'il n'est pas nécessaire de faire ça aujourd'hui. Mais nécessaire de faire ça aujourd'hui, je ne veux pas dire que je change de position à cause des circonstances, non. C'est que les circonstances m'obligent, pour la preuve de l'essence de Dieu, d'être beaucoup plus précis. Et ça m'a beaucoup secoué quand j'ai su ce petit cercle qui s'était fait auprès du CERF, auprès du dominé des éditions du CERF, qui avait organisé ça. Est-ce que les preuves de l'existence de Dieu classiques de Sainte Condamne de Saint Thomas sont-elles encore valables? Et tous ceux qui faisaient partie de cette réflexion ont déclaré non, elles sont plus valables. C'est pas tout à fait juste. Elles n'ont plus de prise aujourd'hui. C'est vrai. Et ils ont dit, on est obligé de se ramener à Kant, l'impératif catégorique. Ou alors, là, je suis complètement négatif en disant ça c'est faux. Les preuves de Kant, c'est comme si on disait que la psychologie nous permettait d'atteindre l'existence de Dieu. L'impératif catégorique, c'est une obligation subjective. Je suis obligé de faire ça. Il faut. C'est « il faut » qui montre l'existence de Dieu. C'est pas juste. De sorte que je croirai ainsi bien. Que par la nature, vous arrivez à poser l'âme. Dès que vous posez l'âme, l'âme humaine, que vous essayez de voir ce qu'est l'âme humaine, vous pouvez découvrir l'essence de Dieu. Et pour moi, c'est une confirmation du fait qu'aujourd'hui, on ne veut plus regarder l'existence de l'âme. On dit que l'âme n'existe plus. Pourquoi y a-t-il cette attitude très nette? C'est parce qu'on sait que si on ne peut plus découvrir l'âme philosophiquement, on ne peut plus prouver l'existence de Dieu. Et alors, je mettrai première preuve de l'existence de Dieu par la phusis et la psyché. Deuxième preuve de l'existence de Dieu par le point de vue de la personne, l'amitié. Et ces deux preuves qui sont distinctes, ces deux preuves nous aident. Chacune, elles sont efficaces. Toutes les deux se prennent par la finalité. Mais la finalité, il y a deux chemins par où nous finissons la finalité. Le chemin de la nature et de l'âme. Et le chemin de la finalité de la personne. Et bon. Je vous donne ça à titre de réflexion, mais je crois que c'est très important. Et j'ai beaucoup hésité avant de le dire, parce que c'est quand même difficile de dire que tout cet effort des cinq preuves d'existence de Dieu qui a fait couler beaucoup d'encre, doit être dépassé par ce double effort, la nature et l'âme, la finalité de la personne. Il semble qu'elle nous renvoie vers Dieu. Pour cela, il faut qu'on s'appuie sur elle et qu'on devienne libre. Pourquoi Dieu choisit-il cette médiation puisqu'il n'y intervient pas et qu'il sait que l'homme risque de s'y perdre. Cette médiation, c'est-à-dire la nature. Pourquoi Dieu choisit-il cette médiation ? Puisqu'il n'y intervient pas. Pas directement. Dans l'ordre des causes secondes, dans l'ordre de la nature, Dieu laisse la nature et l'ordre de la nature. Alors, pourquoi Dieu choisit-il cette médiation ? Pourquoi Dieu, je le dis ici au point de vue théologique, et puis on regardera au point de vue philosophique après, pourquoi Dieu choisit-il de créer l'homme et la femme, et qu'il il avait créé avant les anges? En créant les anges, Dieu crée directement des personnes. Puisque chaque ange a une nature angélique différente. Donc il n'y a pas le problème de la nature. Les anges connaissent Dieu directement par leur propre personne. Pourquoi Dieu a-t-il voulu, après avoir créé les anges, avoir créé la nature humaine ? Donc, avoir créé un être naturel, l'homme et la femme. L'homme et la femme ont la même nature, mais ils sont deux personnes distinctes. Et il est sûr que l'homme a de fait la considération de la nature pour découvrir l'existence de Dieu et la considération de la personne pour découvrir l'existence de Dieu. Vous avez donc deux voies. La nature et la personne. Pourquoi Dieu a-t-il voulu réaliser une personne humaine dans une nature commune? Puisque nous avons tous une nature commune. Et nous sommes chacun uniques dans notre personne. Pourquoi Dieu a-t-il voulu réaliser cette nature commune? Voyez le problème, hein? C'est intéressant, du reste. Il ne s'oppose pas beaucoup, on ne le pose pas de façon classique, mais il s'oppose. Alors, je donne les raisons. C'est pour pouvoir communiquer à cette personne humaine quelque chose que Dieu peut communiquer à la nature, mais pas à la personne. Qu'est-ce que Dieu peut communiquer à la nature sans, et par la nature à la personne, mais par la nature? Note le fait que l'homme puisse être un père, c'est-à-dire qu'il puisse communiquer la vie. L'ange ne communique pas la vie. peut communiquer grâce à sa nature. L'homme engendre un autre être au point de vue de la nature, mais pas au point de vue de la personne. L'homme ne choisit pas d'avoir tel enfant, telle fille, non, il ne choisit même pas d'avoir un garçon ou une fille. C'est la nature. Et parmi les garçons, il n'a pas un prototype. Il choisit ce qui lui est donné, selon sa nature. Et celui qui lui est donné, il ressemble à l'atavisme de son épouse, ou à l'atavisme de lui-même. Il y en a qui font ces réflexions très amusantes de pères de famille. Ils sont tous du côté de ma femme. Donc, je retrouve dans l'atavisme tous les enfants qui ressemblent à sa femme. Il n'y en a aucun de mon côté. Et dans les familles nombreuses, il y a nettement deux atavismes. C'est très net. C'est curieux, ces choses-là. Et le philosophe doit regarder ça. C'est quand même intéressant de voir ça. Et vous voyez, c'est la nature. Le point de vue de la génération, de la procréation, c'est la nature. C'est grâce à la nature que Dieu peut communiquer à une nature le pouvoir d'engendrer. Il ne le communique pas à la personne comme personne. Et c'est pour ça que la personne, le père et la mère, ne peuvent pas choisir. Ah, qu'il soit de mon côté, ou qu'il soit, j'accepte qu'il soit dans ton atavisme, je ne choisis pas. Ça, pour la personne, c'est dur de voir que la nature passe avant la personne. Mais la personne permet que l'homme et la femme soient vraiment source de vie, et de vie humaine. Les anges ne sont pas source de vie angélique. C'est grâce à la nature que la créature puisse être père et mère. Je crois que ça, c'est la grande raison. Dieu a voulu, dans sa miséricorde, communiquer à la créature le pouvoir d'être source de vie. C'est quand même très étonnant, ça. Et ça fait partie de la miséricorde de Dieu. Non seulement Dieu a permis ça, mais Dieu a permis qu'entre l'homme, entre les individus, entre les personnes, il puisse y avoir une véritable amitié. C'est quand même assez étonnant. Dans les anges, il n'y a pas d'une amitié naturelle. Les anges sont tous des solitaires. Et il y a une amitié surnaturelle, mais pas d'amitié naturelle. Ils sont quelquefois, on dirait comme des anges, en disant, on fait très bien l'amitié surnaturelle, mais l'amitié naturelle, non, non. l'amitié est enracinée dans la nature. Et troisièmement, Dieu peut, grâce à la nature, permettre à l'homme d'être artiste. Les anges ne sont pas des artistes. Il faut le contact de la nature pour ça. Il y a donc trois choses qui sont communiquées à la personne grâce à la nature. Alors réfléchissez beaucoup à ça, parce qu'on ne le dit pas, et c'est très important de le dire, parce que en le disant, on comprend dans un regard de sagesse pourquoi Dieu a réalisé ce chef-d'œuvre qui est une nature commune et chacun ayant sa personnalité. Donc, Dieu qui a réalisé ça, grâce à notre nature commune, il peut y avoir le problème de la procréation, il peut y avoir le problème de l'amitié, il peut y avoir le problème de l'art. C'est les trois problèmes où la personne s'appuie sur la nature, se sert de la nature. Donc, qui sont les trois originalités de la création de l'homme. Et cherchez bien, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Et je crois que c'est important, ça, de bien comprendre ça, le pourquoi de la création de l'homme. Ce que je découvre en théologie, je dis que je le découvre en philosophie. En philosophie, pour la capacité d'engendrer, la capacité d'aimer, d'amitié, la capacité de l'art. C'est quand même quelque chose de très spécial. Donc pourquoi Dieu choisit-il cette médiation de la nature puisqu'il n'y intervient pas et qu'il soit que l'homme risque s'y perdre. Dieu nous a créés dans une nature. Et pourquoi Dieu nous a créés dans une nature? C'est pour le problème de la procréation, de l'amitié et de l'art. Alors, pourquoi, après la faute, le mystère de la grâce par le Christ. Alors, il faut toujours bien comprendre que selon la justice originelle, la grâce est donnée à partir de la nature. Selon la grâce chrétienne, la grâce est donnée à partir du Christ. C'est très important pour voir la différence de la grâce chrétienne de la grâce de Jésus originel. est donc quelque chose de tout à fait nouveau dans la grâce chrétienne. Une exigence tout à fait nouvelle. Alors, cette grâce chrétienne peut exiger le fait de ne pas se marier, de se consacrer à Dieu. Donc, un des trois, on peut le dépasser. Et on peut le dépasser à cause de la grâce chrétienne. C'est pour être plus uni au Christ qu'il y a ce dépassement, cette possibilité de la virginité. Il n'y a pas le dépassement par rapport à l'amitié. Et il n'y a pas le dépassement par rapport à l'art. C'est très curieux, ça. Alors, pourquoi y a-t-il le dépassement par rapport à la génération et qu'il n'y a pas les deux autres dépassements ? Alors là, c'est un problème de théologie. Consécration à Dieu a pu se réaliser, ça aura l'occasion de le voir, à cause de la maternité spirituelle de Marie, qui est mère de Dieu. Donc la maternité de Marie a introduit dans l'ordre surnaturel, un cas éminent, unique, qui se continue par la vie religieuse. La vie religieuse, je crois bien, on peut le dire, existe grâce à la maternité divine de Marie. Et pour que la maternité divine de Marie demeure dans l'Église. Vous voyez, il y a un endroit, ou deux endroits, quand on dit à Jésus, ta mère est là. Et Jésus répond, ma mère, ma sœur, ce sont tous ceux qui obéissent à la volonté. Voyez bien que Jésus lui-même nous montre comment la maternité divine demeure dans l'Église et que c'est cela qui l'intéresse. Ce n'est pas le côté physique et naturel, c'est le côté personnel. Voyez ? C'est très curieux et très étonnant, ça. Et là, il y a ce qu'on essaiera de voir ensemble, au point de vue théologique. Il y a un regard qui, je suis sûr, nous permet d'aller très loin. Et nous permet de saisir la vraie raison de la vie religieuse. La vraie raison de la vie religieuse, c'est que Marie était mère de Dieu. Évidemment, on ne peut pas répéter ça aujourd'hui comme ça, parce que je n'ai pas vu aucun théologien. C'est en réfléchissant sur justement ce mystère de la procréation, comment la grâce chrétienne peut le dépasser et faire une maternité divine dans la vie apostolique. voyez, il demeure toujours vrai que pouvoir engendrer, pouvoir être source de procréation permet à l'homme et à la femme d'être plus proche du cœur du Christ. Autre question, tout à fait différente. Lors du dernier cours de théologie naturelle, vous nous avez montré que le secours de Dieu intervient lorsque l'homme doit orienter sa vie vers sa finalité personnelle. Pouvez-vous préciser cela? Par exemple, dans l'amitié. Oui, c'est à l'égard de l'amitié du reste que je dis ça, surtout. Dieu intervient-il pour faire choisir tel ami plutôt que tel autre? Dieu me destine-t-il à être l'ami de telle personne particulière, ou bien m'assiste-t-il dans le choix personnel que j'ai fait de tel ami? Ceci, cette question intervient parce qu'on avait vu les interventions du gouvernement divin dans notre vie humaine. Et vous l'avez dit, il y a une intervention de Dieu spéciale pour le choix de l'ami. Pourquoi? Parce que par le choix de l'ami, nous atteignons notre fin naturelle. La première finalité naturelle est l'amitié. La seconde finalité naturelle est la contemplation. La procréation est une fin naturelle et pas personnelle. C'est pour ça, du reste, que la personne peut, par la grâce, l'offrir à Dieu. Donc, Dieu intervient directement sur la personne humaine à l'égard de cette personne qui doit atteindre sa fin. Ce n'est pas la fin dernière, ce n'est pas la fin ultime, c'est une fin intermédiaire. Quelque chose de tout à fait particulier. C'est une fin intermédiaire à cause du corps. L'amitié implique le corps et l'âme. Il n'y a que les anges qui... Non, et les anges n'ont pas d'amitié naturelle. Donc, c'est propre à l'homme d'avoir une amitié naturelle. Et l'amitié naturelle pour l'homme implique le point de vue de l'âme et du corps. Et parce que l'amitié me fait atteindre ma fin, donc un certain dépassement de ma nature, pour un point de vue personnel, il faut un secours spécial de Dieu pour réaliser ce dépassement. Alors nous voyons bien qu'il y a intervention de Dieu pour une véritable amitié. Quand je choisis mon ami au-delà de sa finalité propre, c'est vraiment ce dépassement qui exige cette aide particulière de Dieu, le dépassement de la nature. L'amitié ne s'explique qu'au point de vue personnel. C'est pas une fin naturelle. C'est très curieux. C'est une fin naturelle aussi parce qu'elle est personnelle. Mais l'amitié est une fin personnelle. Et parce qu'elle est une fin personnelle, c'est pour ça qu'elle me fait atteindre vraiment ma finalité. Et elle me fait atteindre ma finalité d'une façon imparfaite. C'est qu'à dire que cet amour d'amitié me permet d'aller plus loin et d'aller dans cette fin naturelle, parfaite, qui est la contemplation. Donc, il faut bien comprendre ça. Il y a un secours de Dieu. Alors, évidemment, faisons attention, un secours de Dieu qui n'est pas extraordinaire. Dieu intervient-il pour me faire choisir tel ami plutôt que tel autre? Dieu intervient-il? Dieu intervient sur mon intelligence et mon amour pour choisir un ami. Par exemple, dans l'amitié, Dieu intervient-il pour me faire choisir tel ami plutôt que tel autre? Oui, sûrement, si je lui demande. Et pour le choix véritable d'un ami, il faut qu'il y ait cet attendre. Il faut ce secours de Dieu. Dieu me destine-t-il à être l'ami de telle personne particulière? Ou bien m'assiste-t-il dans le choix personnel que j'ai fait? Je crois qu'il faut comprendre que Dieu intervient comme mon ami. Donc, il intervient dans le choix de tel ami. C'est très net. Il intervient à ce moment-là paternellement comme l'ami. Dieu sait que le choix d'un ami est une chose capitale. Et que si on se trompe, par exemple, ça peut avoir d'immenses conséquences dans la vie. Et on peut, à ce moment-là, perdre un temps énorme pour acquérir sa vraie finalité. Le choix d'un faux ami serait un piège par rapport à l'acquisition de ma finalité dernière. L'ami est vraiment le choix d'une vraie finalité. Donc, me permet à ce moment-là d'épanouir en moi ma soif d'atteindre ce qui est capable de me perfectionner. Et ce choix amical est vraiment personnel. Et donc, parce qu'il est vraiment personnel, il exige le secours de Dieu pour se réaliser. Dieu permet de réaliser ma personne à travers cette amitié et dans cette amitié. Vous voyez, il y a là quelque chose de spécial. Dieu n'intervient pas d'une façon exceptionnelle pour dire « c'est ça ». Il intervient sur l'intelligence et la volonté pour leur permettre, intelligence et volonté, de bien choisir. Le choix d'une personne et le choix d'un ami, c'est le choix le plus parfait qu'on peut faire. Et donc, comme c'est le choix le plus parfait qu'on peut faire, il y a intervention de Dieu. Mais intervention de Dieu pas explicite. C'est pas une révélation. C'est tout simplement le choix de Dieu qui permet à mon intelligence et à mon cœur de réaliser pleinement ce qu'il a demandé. C'est, je crois, quelque chose de très important, cela. Parce que c'est là qu'on découvre que Dieu est Père. C'est la première découverte de Dieu Père. Dieu s'intéresse à ma destinée. Dieu ne s'intéresse pas directement aux moyens, puisque les moyens me sont donnés par ma nature. Mais Dieu s'intéresse à un choix personnel, parce que le choix personnel est au-delà de la nature et ne peut pas se faire sans un secours actuel de Dieu. Vous allez me dire, mais alors, comment peut-on se tromper? On peut se tromper parce qu'on a choisi trop vite. On a été séduit par la passion. Alors, quand il s'agit d'un choix purement passionnel, Dieu n'intervient pas. C'est la nature. Oui, la passion, c'est la nature qui s'éveille. Le choix personnel, c'est la personne qu'on choisit. Dans le choix personnel, il n'y a rien de passionnel. Plus exactement, la passion est dépassée. Elle peut exister. On a pu très bien, au point de départ, aimer quelqu'un passionnément. Et quand on voit quelqu'un qui nous intéresse, a été frappé par ta personne, il y a presque toujours, il y a la phase naturelle de l'amitié et la phase personnelle de l'amitié. La phase naturelle de l'amitié, c'est l'attraction naturelle. On est attiré naturellement vers telle personne. Les beaux yeux, la belle figure, le sourire, on est attiré naturellement. Et cette attraction naturelle est passionnelle. C'est la passion. Et quelquefois, c'est très fort, quand la passion est très forte. Quelquefois, c'est très doux. La passion a des modes variés de douceur et de force. Mais le choix dépasse la passion. Le choix regarde la personne. Le choix se sert de l'aspect passionnel. L'aspect passionnel demeure dans le choix. Mais l'aspect passionnel n'est pas dominant dans le choix. C'est le choix. Activité intellectuelle et sensible. Et dans le choix. C'est proprement ce choix personnel, intellectuel et volontaire qui est le choix. Mais il a ordinairement ce choix sans racine dans une passion plus ou moins forte, dans une passion, dans une attraction. Je suis attiré, je suis pris, tu m'as séduit. La séduction est de l'ordre passionnel. Il y avoir une séduction beaucoup plus profonde qui se réalise dans le choix. Alors à ce moment-là, ce n'est plus la séduction, c'est le choix. Alors, on verra la fois prochaine l'intervention de Dieu au-delà de la personne, sauf si vous avez des questions.